voici entre Loire et Loing. C'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter chaque samedi à la radio et toute la semaine en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook, notamment entre Loire et Loing. Abonnez-vous, connectez-vous, commentez, likez, partagez. Au sommaire de ce numéro, nous allons faire un tour dans le Viennois où les iris sont en pleine floraison. Nous parlerons également de la véloroute qui devrait prochainement relier Montargis à Orléans le long du canal. Et c'est le président du conseil départemental du Loiret, Marc Godet, qui nous en dira un mot. Et puis nous parlerons du Festivox, le retour de la guinguette des bords de Loing à Châteaurnard, qui est de retour pour sa 25e édition les 3, 4 et 5 juin, c'est le week-end prochain. Mais on va commencer d'abord un petit peu en musique. A tout de suite, entre Loire et Loing. Nous sommes toujours entre Loire et Loing, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L et je vous propose un petit tour tout juste de l'autre côté de la Loire, dans le Viennois où les iris sont en pleine floraison.
Amis d'autres Loire-et-Loire, est-ce que vous connaissez ce petit paradis sur Terre qui est l'univers de Cailleux à la Carcaudière, à Poilly-les-Giens? Voilà, comment ne pas faire une balade dans le Giennois, surtout à cette, précisément à cette époque, sans venir rencontrer Monsieur Richard Cailleux. Monsieur Richard Cailleux, qui est donc le propriétaire de ce lieu formidable, et vous êtes, vous disiez, la quatrième génération à produire des iris.
Oui, en effet, c'est mon arrière-grand-père qui, dans les années 1890, a commencé les hybridations d'iris. Et donc, ça s'est transmis de père en fils jusqu'à maintenant.
Sans arrêt, il n'y a pas un fils qui a voulu arrêter.
Non. C'est quasiment une obligation, on va dire. Et c'est dans nos gènes, en fait, sans doute.
Bon, voilà, on va parler un petit peu chiffres. On va demander à Richard Cailleux combien d'hectares, combien de variétés, etc. Tout ce qu'il sait par cœur.
Alors, on cultive à peu près 20 hectares d'iris, ce qui représente la plus grande superficie en Europe d'iris de jardin. Et sur ces 20 hectares, on a environ 1300 variétés, dont la moitié de commercialisées et la moitié qui sont pour le futur. Voilà.
D'accord, très bien. Oui, parce que vous êtes des créateurs d'iris. Alors, chaque année, combien y a-t-il d'iris qui sortent des quoi? On ne dit pas un laboratoire, comme on dit?
Non, on ne va pas parler de laboratoire, mais on fait quand même des travaux de recherche. Mais notre laboratoire, il est en plein air, dans les champs. Voilà. Donc, on a à peu près un hectare qui est voué à ces recherches, donc qui contient pratiquement uniquement des semis cailleux. Des semis, c'est ce qu'on les appelle semis parce qu'ils sont issus de croisements, ça donne des graines, et après des plantules, donc c'est, voilà, c'est des semis. Et parmi tous ces semis, très peu rentrent un jour dans la collection. Disons qu'à peu près 2 pour 1000, voilà.
Alors Richard, on disait que, bon, je suppose qu'évidemment vous cherchez toujours des coloris extraordinaires, mais à l'heure actuelle, les recherches, elles vont plutôt peut-être vers des plantes qui résistent de mieux en mieux à la chaleur, parce qu'aujourd'hui il fait très chaud en fait.
En fait, l'iris étant originaire du pourtour de la Méditerranée, différentes espèces naturelles au démarrage, l'iris résiste très bien à la sécheresse et aux hautes températures. Cependant, lors de la floraison, on est mieux avoir des températures un peu douces, autour de 20 degrés, plutôt qu'autour de 30 degrés, parce que les fleurs fanent beaucoup plus vite. Et il faut tout faire en même temps, faire les nouveaux croisements, accueillir les visiteurs. Et puis on est content quand ça dure longtemps, en fait, aussi.
Alors donc, ça commence quand et ça finit quand? La grande visite, le plus chaud de la visite.
On est toujours ouvert à partir du 1er mai jusqu'au 31, mais selon les années, le pic de la floraison se déplace. Donc cette année, on l'avait prévu entre le 24 et le 27 mai. Là, on va plutôt être autour du 18 mai. Voilà. Le pic de la floraison, c'est quand toutes les variétés sont en fleurs en même temps. C'est-à-dire que les variétés précoces sont encore fleuries et les tardives commencent à peine à fleurir. Voilà.
Vous disiez que parmi les iris qui tiennent bien, bizarrement, il y en a un ancien, un blanc, qui date de votre grand-père, c'est ça?
Oui, alors j'ai remis à l'honneur des variétés de mon arrière-grand-père il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a des amateurs de variétés dites historiques, entre guillemets. Et en les observant, je m'aperçois qu'elles tiennent quand même relativement bien. Donc, Dame Blanche, qui a été créée dans les années 30, s'est ouvert le 1er mai et il va encore durer une semaine environ.
Qu'est-ce qu'on recherche à l'heure actuelle? La grosse fleur, la fleur qui dure longtemps, ou des coloris? C'est quoi la mode? Parce que c'est la mode, l'iris, j'ai l'impression.
J'espère que c'est la mode. Non, mais il y a certaines tendances, si vous voulez. Par exemple, l'orange là-bas, qui s'appelle Crackling Caldera, a énormément de succès ces jours-ci. Il faut dire que quand on le voit au milieu des autres, il est éclatant. Le noir aussi a énormément de succès, et le rose aussi depuis toujours. Mais on fait toutes les combinaisons possibles. Le seul coloris qu'on n'a pas, c'est le rouge.
Ah oui, c'est vrai.
Le rouge, parce qu'il n'y a pas le pigment rouge dans les cellules de la plante iris.
Voilà. On ne peut pas tricher.
On ne peut pas tricher. On pourrait peut-être faire des manipulations génétiques, mais je ne suis pas tellement pour. Et puis, compte tenu déjà de la gamme de coloris existants, est-ce bien nécessaire? Je ne suis pas du tout sûr.
Et puis alors, je disais à mes amis d'entre Loire et Loin, Mademoiselle Anita et Monsieur Weber, que la poésie aussi de vos iris, ce sont les noms dont vous les baptisez.
Bon, c'est pas toujours facile de baptiser une nouvelle variété parce qu'on n'a pas le droit de reprendre un nom déjà existant. On n'a pas le droit de donner un nom qui soit trop évocateur de la couleur. Bon, c'est la Société américaine des iris qui enregistre tous les iris créés dans le monde. Donc, j'aurais préféré que ce soit en Europe, mais c'est comme ça. Donc, parfois, on utilise des noms de personnes, si elles le veulent bien. Là, j'ai par exemple un iris que j'ai appelé Frison Roche, qui est tout blanc, parce que j'aimais beaucoup la littérature de Frison Roche, mais je lui avais demandé l'autorisation à l'époque.
Qui est un alpiniste.
Voilà, c'est lui qui a écrit Premier de cordée, notamment.
Voilà.
Oui, on a aussi Princesse Caroline de Monaco.
Non, mais moi, je vais vous en dire un que j'adore. Voilà. Ciel d'orage sur Poilly les Giens.
Ah,
c'est ça.
Ciel gris sur Poilly.
Oh, ciel gris, je me suis trompée.
Ah, ça, c'est un iris particulier, oui.
Pourquoi c'est particulier?
Mais parce qu'il est blanc et gris et c'est un coloris pas commun, presque un peu triste. Mais en fait, j'ai failli le jeter, ce croisement-là.
Oh.
Et puis, je l'ai montré à beaucoup de personnes. On se promenait dans les carrés de semis. Et ils m'ont dit non, il faut absolument le garder. Alors que mon père m'avait dit à l'époque, tu vas tout de même pas enregistrer un truc pareil. Voilà. Et il a pas mal de descendants intéressants maintenant.
Alors donc, cette année, les créations, c'est quoi?
Eh bien, cette année, on en a créé 15 ou 16.
Wow.
Là, elles ne sont pas bien fleuries actuellement. Mais par contre, celles de 2021 sont juste derrière nous. Donc,
moi, j'adore ça.
Voilà.
C'est formidable.
Ça,
c'est nouveau.
Alors ça, il date de l'année dernière. Et il s'appelle Songeur. Alors, j'ai aussi hésité à le garder. Et finalement, j'en ai vendu beaucoup aux États-Unis l'an dernier.
Oui.
Et donc, il a du succès. Après, vous avez par exemple le blanc et indigo là-bas, avec une bordure indigo qui s'appelle Hatshepsut. Ça, c'est un souvenir d'un voyage en Égypte. Le rose qui s'appelle Rose Attitude.
Alors ça c'est très joli parce qu'en fait c'est la petite langue. Alors vous appelez ça comment la petite langue?
La barbe.
Alors la barbe, c'est la seule touche vive.
Oui.
Au milieu de.
Celui-là je l'ai baptisé Rouge de plaisir.
Alors Richard, c'est vous en fait qui donnez les noms.
Ah oui.
Parce que vous êtes le chef, alors c'est vous. Est-ce que de temps en temps il y a un de vos. Alors vous êtes combien d'abord dans l'entreprise?
On est entre 6 et 30.
Ah bah l'été c'est 30.
L'été c'est 30, oui.
Hein, c'est ça.
Voilà.
Alors on va dire quand même à Monsieur Weber, qui ne s'y connaît pas beaucoup en iris, qu'on vient les choisir là maintenant, mais on prend des commandes pour le mois d'août, c'est ça?
Exactement, voilà, juillet, août, septembre,
voilà.
3 mois.
Parce que ce sont les bons mois pour planter l'iris.
Oui, parce que là les plantes sont en pleine floraison et donc on ne peut pas les livrer maintenant, elles ne bougent pas pendant la floraison. Elle recommence à développer des réserves après la floraison, à peu près 5 semaines après la floraison.
C'est formidable. Vous savez quand même, ça reste entre nous, hein, Monsieur Richard. Moi, je trouve qu'on n'est pas loin de la lingerie féminine avec les iris. Vous ne trouvez pas? Vous y avez déjà pensé?
Non, j'y ai jamais songé.
Ben,
mais
maintenant, vous y
mais
penserez.
Effectivement. Oui. Maintenant, j'y penserai.
Encore merci. On va se balader. Alors, encore une fois, ça, c'est de l'iris de jardin. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'iris de Hollande, c'est
non,
ça?
Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le même genre végétal, mais l'iris de Hollande est un bulbe.
Voilà.
Alors que l'iris des jardins est un rhizome. Et au niveau nombre de variétés, c'est incomparable. L'iris des jardins, vous avez peut-être 10 000 variétés. Facilement, alors que l'iris de Hollande, il y en a beaucoup moins. L'iris de Hollande est fait pour les bouquets, en fait.
D'accord. Et on va de quelle taille à quelle taille?
On va de 12 cm à 1,20 m environ.
1,20 m?
Oui, oui.
Alors, lequel fait 1,20 m?
Celui-là, normalement, s'il avait fait ce qui s'appelle Absolute Treasure, il aurait dû faire 1,20 m à peu près. Mais vous voyez, l'inconvénient, c'est que quand il y a du vent...
Il se courbe.
Voilà.
Voilà, il penche.
Oui. Il suffit aussi qu'il soit un peu chargé en eau et il tombe.
On arrive à avoir combien de coloris sur un seul, comme on dit, un modèle, on dit quoi ?
Une variété.
Une seule variété. Hein, parce que je vois ça, par exemple, ça, c'est incroyable. On commence par le jaune, jaune-vert, on évolue. C'est ce que vous appelez des fondus.
Ouais, oui, moi j'appelle ça un coloris fondu, oui.
Alors qu'il y en a qui sont très contrastés, c'est ça ?
Oui, vous avez des coloris... Ce que j'aime beaucoup dans l'iris aussi, c'est le bleu, vous voyez ?
Donc très simple.
Celui-là s'appelle Bordeloire, vous voyez, je l'ai appelé Bordeloire, je l'ai créé il y a 2 ans. Et il y a assez peu de bleu profond comme ça. La difficulté étant
de stabiliser la couleur ?
Non, d'avoir vraiment du bleu, en fait.
Ah oui. Il est très profond, c'est vrai.
Ça dépend des éclairages, mais il est quand même très bleu. Et puis Bordeloire, c'est bien.
Richard, est-ce que vous avez eu une vie passionnée ?
Oh ben bien sûr, oui.
C'est ça, hein ?
Oui.
Ça vous a plu, votre vie de créateur de fleurs ? Vous avez commencé à quel âge ?
Je n'ai pas commencé si jeune que ça, mais j'aidais mon père l'été. Et après mes études d'agronomie, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Voilà.
Ah, vous n'avez pas fait des études de poésie, en fait, malgré les noms de vos iris ?
J'ai fait des études de cytogénétique. Voilà.
Bon, vous accueillez combien de visiteurs chaque année ?
Entre 2 et 3 000, voilà. Le plus possible.
Le plus possible ?
J'ai l'impression que la chaleur trouble un peu les gens en ce moment.
Ah oui, d'accord. Ouais. Un petit peu moins de...
Sauf vous.
Mais... voilà, mais nous, on est des courageux, on est des passionnés. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci d'être venu.
Merci. Alors, les coordonnées, vous allez trouver ça. Entre Loire et Loin, c'est quand même pas très compliqué. Il y a un site. Est-ce qu'il y a une page Facebook ?
Oui, il y a une page Facebook, mais ne me posez pas de questions.
Il y a une page Facebook, c'est obligé. Il y a un Instagram, il y a un magnifique site internet.
En 5 langues, italien, espagnol, anglais, allemand, français, bien sûr.
Et puis en ce moment, c'est ouvert tout le temps ?
C'est ouvert tous les jours jusqu'au 31, là.
Voilà. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu pressés, qui ne veulent pas attendre le mois d'août, vous pouvez venir acheter des pots.
Voilà. On a mis une quarantaine ou une cinquantaine de variétés en conteneurs, en pots. Et les gens sont contents de repartir avec. Voilà.
Oui,
mais bien sûr, l'échantillonnage, c'est quoi ? C'est 10% de ce qu'il y a dans ce petit carré-là. Voilà.
Mais les gens, ils sont peut-être un petit peu pressés, un petit peu capricieux de nos jours, non ? Ils veulent tout de suite, non ?
Oui,
c'est ça.
C'est sûr, mais nos clients connaissent notre façon de faire et ils acceptent d'être livrés, s'ils commandent actuellement, d'être livrés au mois de juillet.
Et puis surtout, vous pouvez vous inscrire à la mail list. Et Richard Cailleux nous disait qu'il y avait 2000 envois, c'est ça ?
2000 envois.
Combien de mail list envoyés tout le temps ?
On a à peu près... On est au-delà de 20 000.
20 000, c'est pas 2 000, c'est 20 000. Ouais. Ça me paraissait pas beaucoup.
Au-delà de 20 000, oui.
Voilà, et on reçoit la newsletter tous les combien ?
Là, actuellement, on en fait une toutes les semaines pour indiquer aux gens la bonne période pour venir. Et donc, là, je vais en refaire une dans 2 jours, a priori.
C'est super.
Parce que les caprices du temps font que la floraison avance très vite. Voilà.
don't even gotta try. I like shouting, make it better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like.
Nous sommes entre Loire et Loing sur ces deux ailes et l'été approche. Les beaux jours sont là, on a envie de se balader, de profiter de notre belle région et pourquoi pas en vélo. Cette semaine, justement, Marc Godet, le président du conseil départemental du Loiret, était à Chalette pour inaugurer et donner le premier coup de pioche d'un chantier qui va durer quelques années et qui consiste en la construction d'une véloroute entre Montargis et Orléans le long du canal. Il nous en parle au micro de Sandrine Manteau.
Amis d'entre Loire et Loing, nous sommes avec Marc Godet. Marc Godet, c'est le président du département. Il adore les canaux. En ce moment, c'est sa passion.
Oui.
Puisqu'il y a un grand projet, donc c'est un joli projet, qui s'appelle le Loiret au fil de l'eau. Tout à l'heure, on vous a vu avec une pioche, Marc. Qu'est-ce que vous faisiez avec une pioche et votre costume?
Alors là, voilà. Je mimais la création d'une véloroute le long de ce canal d'Orléans qui relie Chalette à Orléans. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est le lancement de cette voie verte qui va relier, dans un premier temps, Chalette à Prénois, première tranche de travaux. Puis ensuite, il y aura une deuxième tranche qui se fera entre Chessy et Vitry-aux-Loges. Puis ensuite, il y aura deux tranches pour faire la jonction entre les deux parties qui auront été réalisées. Ça veut dire concrètement que nos 70 km seront réalisés pour le mois de juin 2025. 2025, en juin, on se donne rendez-vous ici, on prend le vélo et on va à Orléans.
Alors on fait d'abord une tranche ici dans le Montargois, une de l'autre côté dans l'Orléanais pour que personne n'attende trop longtemps, c'est ça?
C'est un peu ça l'esprit, effectivement, l'esprit c'est ça, c'est de se dire voilà, on fait d'abord un côté, ensuite on fait l'autre, et puis après je pense qu'on verra en fonction des priorités sur l'une ou l'autre des deux tranches. Mais en tout cas les deux dernières tranches viendront très rapidement l'une derrière l'autre, pour que, quoi qu'il en soit, au mois de juin 2025, tout soit terminé.
Vous aimez le vélo?
Alors, je ne suis pas un grand pratiquant. Je pratique en gros une fois par an, je fais la balade à vélo du département, puisqu'on a instauré maintenant ce rendez-vous avec les élus qui souhaitent nous accompagner. On a fait d'ailleurs Chalette, Orléans, on l'a fait il y a quelques années. L'année dernière, on a fait un morceau de Loire à vélo. On recommence l'année, donc on fait 80 km à peu près. Donc c'est pas rien, en vélo électrique, évidemment, avec assistance électrique. Puis après, pendant les vacances, un petit peu de temps en temps. Mais après, voilà, je suis pas prêt à faire le Tour de France.
Bon, bah néanmoins, ce parcours, évidemment, sur le canal, c'est un parcours qui est facile à emprunter par les familles. C'est tout plat, c'est tout aménagé. Alors, c'est quoi comme aménagement?
Tout à fait. Donc, cette véloroute, elle sera revêtue sur une bande d'à peu près 2,50 m à 3 m. Donc, ça apporte la sécurité aux usagers, déjà. On peut se croiser facilement. Il n'y a pas de chaos. Ça permet de rouler sereinement sur cette véloroute. Et puis, on va jalonner toute cette véloroute entre Orléans et Chalette, d'aires de service, et il y aura aussi des aires à haut niveau de service, où on pourra avoir des toilettes sèches, on pourra avoir aussi recharger le vélo électrique, on pourra aussi s'installer dans des fauteuils, dans des bains de soleil qui seront fixés sur des platelages bois. Enfin voilà, il y aura vraiment un bel outil de développement touristique.
Qui a eu l'idée de s'occuper enfin du canal ? Parce que le canal appartient au département désormais, c'est ça ?
Alors l'idée, elle remonte assez loin, puisque Éric Doliger avait déjà engagé des démarches pour acquérir ce canal. À l'époque, on parlait de 6 millions d'euros, après on évoquait les 3 millions d'euros. Et puis, ça faisait cher pour un canal. Ceci dit, un canal avec toutes ses dépendances et ses 23 maisons éclusières. Donc un patrimoine quand même extrêmement important, plus de 700 hectares. Bon, et puis après, c'était resté un petit peu dans l'ombre. Et moi, j'ai voulu relancer, dès que j'ai été élu, relancer l'acquisition du canal, notamment auprès du ministre du Budget à l'époque, c'est Gérald Darmanin. Et puis, on a quelque part topé dans la main à l'occasion d'une de ses visites à Orléans pour 500 000 euros. Donc, on a bien fait d'attendre, je pense. Ceci dit, c'est un patrimoine qui est très lourd à gérer. Alors, on le gère en direct. Nos agents départementaux gèrent ce canal en direct. Ils vont tondre les berges, ils vont entretenir aussi ce qui peut être fait comme entretien courant, comme on dit. Et puis après, on a la charge aussi, nous, en direct, de conforter les berges, de restaurer les écluses, de créer cette voie verte. Et puis, quand on a restauré un grand nombre d'écluses, peut-être qu'on pourra reprendre la péniche pour aller, dans un premier temps, de vieilles maisons, je pense à la Belle de Grignon, qui pourra venir sur Chalette assez rapidement, dans un an et demi, je pense que ça sera faisable. Puis après, sur le côté Loire, ça sera un peu plus long.
Alors, vous avez parlé de la Belle de Grignon, vous avez parlé de Vieille Maison sur Joudry. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas il y a quelques mois ? Il y a eu une grande fête ?
Alors, il y a une grande fête. Ben, on a scellé l'acquisition du canal. Voilà, donc ça a été fait avec les services de l'État, où on a signé avec le secrétaire général de la préfecture, signé cette acquisition donc pour 500 000 euros, mais avec, évidemment, il y a des frais de notaire, il y a des frais de bornage. Tout ça, ça a été lancé à Vieille Maison. Vieille Maison, Grignon,
symbolique.
Grignon, où il se passe beaucoup de choses, puisqu'on a vraiment des mariniers qui ont lancé la construction d'une belle péniche, qu'ils appellent la Belle de Grignon. Ils ont un autre projet de créer un bateau qui s'appelle le Coche d'eau. Donc tout ça, c'est toute une activité autour du canal. Et donc moi, je pense que cette activité, aujourd'hui, elle prend de l'ampleur. Et moi, je m'en réjouis, parce que ce sont des associations, des mariniers, qui, certains, bon voilà, ils sont tous bénévoles, ils sont tous à se lancer dans leur passion. Et puis, il peut y avoir aussi de l'activité. On voit bien des excursions sur le canal, des balades en bateau, des bateaux électriques. Voilà, pourquoi pas d'autres activités autour de la gastronomie. Et je pense que tout ça, ça va prendre.
Alors, Marc Godet vient d'évoquer les maisons éclusières. Nous, ici, dans notre secteur, il y a peu de temps, avec Entre Loire et Loing, on en a vu une très, très belle qui s'appelle la Maison Prodigieuse. Et puis, Marc va nous dire un petit peu plus quels sont les projets avec ces maisons éclusières.
Alors, on lance un appel à projet, effectivement, pour l'attribution de maisons éclusières pour des activités, là, après, qui restent à définir. C'est-à-dire qu'on peut être porteur d'un projet pour créer une résidence d'artiste, par exemple, pourquoi pas. Pour aussi créer une épicerie de produits locaux, pourquoi pas aussi. Toute activité touristique liée au canal pourra être retenue dans cet appel à projet. Donc l'appel à projet est lancé. Après, on aura sélectionné tous ces projets. Il y a une première maison éclusière qui a été attribuée sur Combleu, donc à l'opposé d'ici, la première maison éclusière, l'embouchure. Elle va accueillir un jeune qui a une activité de location de bateaux, d'excursion sur le canal. Et puis, il y aura une petite guinguette qui sera aussi dans la cour de la maison de l'embouchure.
Il y a combien de maisons éclusières en tout ?
23 maisons éclusières. Bon, certaines sont occupées, elles le resteront occupées. D'autres sont libres de toute location. Donc on va voir comment on reprend. On va cibler certaines maisons éclusières qui nous paraissent nous stratégiques du point de vue touristique. Donc après, il y a tout un travail à faire pour dire plutôt celle-ci. Alors on a l'exemple du Hâteau, la maison éclusière du Hâteau sur Coudroit, où celle-ci, c'est une petite maison éclusière, mais qui est restaurée et qui peut être occupée dès maintenant. Ben voilà, qu'est-ce qu'on va y faire dans cette maison éclusière du Hâteau ? Peut-être, je sais pas, peut-être un atelier d'artiste, peut-être une résidence, peut-être tout projet peut arriver. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire, de découvrir les projets qui nous seront proposés.
Il reste combien de temps pour les envoyer, pour les faire parvenir au département ces projets ? On a le temps.
Oui, là, je dirais qu'on a encore quelques semaines.
Voilà. Quelques semaines, ça fait pas beaucoup.
Pas beaucoup parce que non, mais je pense que on a fait de la com sur le lancement de l'appel à projet. On a fait de la communication. Donc maintenant, les gens qui ont un vrai projet en tête, ils doivent pouvoir déposer rapidement leurs idées. Et puis ensuite, qu'on attribue, nous, Je pense qu'on sera plus dans l'attribution vers le mois de septembre-octobre. Oui, effectivement, bon, c'est peut-être encore un mois ou deux.
Bon, évidemment, tout ça, ça a un coût. Alors, on va revenir sur notre véloroute. Et puis, on va demander, évidemment, au président combien ça a coûté.
Ah, mais j'aime pas parler de chiffres, moi.
C'était dit, en plus, qu'on n'en parlerait pas.
Et voilà. Donc, en gros, la véloroute, ça va être autour de 15 millions d'euros. Donc 15 millions d'euros, c'est pas rien, hein. C'est une somme importante pour ces 78 km de véloroute. Et puis après, lorsqu'on mettra tout bout à bout, on arrivera facilement à 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour la restauration du canal, la restauration des écluses, la consolidation des berges, voilà, tout le programme de travaux sur le canal.
Maintenant, c'est symbolique, c'est symbolique quand même. C'est une union à travers la beauté patrimoniale et naturelle entre le Montargois et l'Orléanais.
Tout à fait. Il faut préserver d'abord ce patrimoine qu'est le canal d'Orléans. Il faut le préserver. C'est-à-dire qu'on a ce devoir d'entretien parce qu'il a, il a été utilisé hein, il y a un certain nombre d'années. Préserver le patrimoine. Mais en même temps, le faire revivre. C'est-à-dire que le faire revivre, il faut qu'il y ait de l'activité autour de ce canal. Il faut qu'il y ait aussi l'utilisation de la véloroute. C'est important. Et relier effectivement Montargis à Orléans par une voie verte, je trouve que c'est un beau symbole.
Voilà. Est-ce que vous êtes un amateur du slow tourisme, Marc ?
Yes. Yes. Because Frédéric Nérot m'en parle souvent. Non, mais effectivement, oui, le slow tourisme, c'est une forme de tourisme qui se développe. Et on le voit, c'est un tourisme respectueux de la nature, respectueux de l'environnement, respectueux du patrimoine. Donc voilà, le touriste à vélo, c'est pas le même que celui qui va sur une plage en bord de mer. Donc ce touriste à vélo, il est voilà, il prend le temps, il observe, il flâne un peu, il est propre en général. Il y a pas de déchets sur le long des véloroutes, au bord des canaux. Ça nous a été dit par retour d'expérience, ce qu'on voit sur la Loire à vélo ou la Scandibérique. Donc voilà. Et puis ce touriste, il est là aussi pour consommer quelque part. Oui. Il n'hésite pas à aller voir des musées, il n'hésite pas à se poser puis aller prendre un verre au café du coin. Pourquoi pas aussi aller prendre un repas dans le petit resto de la petite commune rurale. Donc c'est ça aussi. C'est toute une économie qui se met en place et moi je j'y crois beaucoup à ce projet.
Bon alors rendez-vous en 2025 pour la fin du chantier.
Voilà, 2025, je vous invite, vous prenez votre vélo. Moi j'aurai un vélo électrique parce que c'est ce qu'on m'a. Ah ben non, pas forcément. Moi c'est le vélo électrique du département, donc après on verra, on fera la course.
Merci Marc.
Merci.
Are you lost and lonely in a low home time? Did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there there? Well, the people care till they just don't care. My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see an ocean?
Bonjour, je suis Maître Lemoine de la Chambre des notaires du Loiret. J'ai le plaisir de vous retrouver chaque jour dans la chronique du notaire sur C2L Radio. Je réponds à toutes les questions qui sont transmises à l'adresse de la radio contact@c2l-radio.fr. À très bientôt sur C2L.
Les plus gros classiques du hip-hop R&B sur C2L Radio dans Hip-Hop sur Loin. Retrouvez-nous tous les vendredis de 21h à 22h, tous les mardis de 23h à minuit pour une sélection 100% old school en compagnie de Johan et Younes. Le meilleur des années cultes du hip-hop à ne surtout pas manquer sur C2L Radio.
De la pop, du rock et des nouveautés sur les ondes de C2L.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L et merci de nous suivre en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Crise du Covid oblige, le Festivox n'avait pas pu avoir lieu depuis au moins 2 ans. Il est de retour. La guinguette des bords de Loine aura donc bien lieu à Châteaurnard cette année. C'est le week-end prochain, les 3, 4 et 5 juin. Concerts, spectacles, animations. C'est la présidente du Vox, Sandrine Manteau, qui nous en parle, interviewé par Julien Bardeille.
Peut-être dans une fête rurale et comment l'enrichir. Voilà.
Très bien. Et donc ça a lieu quand ?
Alors, ça a lieu à la Pentecôte.
Voilà, c'est tous les week-ends de la Pentecôte.
Voilà, à chaque fois, c'est la Pentecôte qui pleuve, qui flotte, qui machin.
Ce qu'il y a également dans la ville, dans le village, une fête foraine et une fête de village que vous venez appuyer avec un superbe feu d'artifice qu'on peut admirer depuis le site de la guinguette.
Voilà, parce que le truc qui plaît bien apparemment à la guinguette, on n'a pas ton expertise au niveau musique, on l'aura jamais, c'est comme ça. Moi, ce que j'avais envie de faire et ce qui plaît beaucoup aux musiciens qui viennent depuis 25 ans, c'est le site, comme tu dis. Et le site, c'était mignon, au milieu d'un village, au milieu du macadam, on a une petite île verdoyante, alors qu'elle était super sauvage il y a 25 ans. Je t'avouerais que je la préférais il y a 25 ans. C'est comme ça. Une petite île verdoyante avec des arbres et enserrée par les deux bras de Loine. C'est joli.
C'est magnifique. Non, c'est vrai, c'est un événement historique, on va dire, hein, puisque...
Bon, on n'a pas voulu faire un festival à l'époque, je vais te dire.
Puis ça a évolué au fil du temps, en fonction des envies des membres de l'association et de...
Voilà, mais je pense que proposer plusieurs groupes sur un endroit donné... À la base, ça se faisait pas trop dans le coin. Et puis voilà.
Mais ça a été inspirant pour d'autres.
Oui, alors ça a été inspirant pour toi.
Exactement, puisque c'est grâce à l'équipe de l'époque qui a su nous donner confiance et nous accompagner que nous avons créé le festival des Ménestrels à Dordive.
Voilà, c'était ça.
Tout à fait.
Sauf qu'aujourd'hui, je t'ai demandé... entre autres en tant que représentante musicaire, je t'ai demandé de nous inspirer aussi. Moi, tu sais, ce que je préfère à la musique, c'est avant tout de rencontrer les gens et de créer des liens et de créer des ponts. C'est ça qui me manque en fait dans la vie. Et on s'est mieux connus à travers Musicaire l'année dernière.
C'est vrai.
Et je me suis dit qu'il y avait des gens dans ce coin qui avaient peut-être plus grande légitimité que l'équipe actuelle du Vox, qui est franchement cinéma, de proposer des groupes sur ce 25e Festivox. Et je t'ai demandé à toi, et j'ai demandé aussi aux copains du label Trempe de choisir des groupes, et aussi aux copains de Mille et Une Fêtes de choisir un groupe montargois. Et ça donne la programmation de ce futur festival.
C'est très bien.
Alors ça ?
Ça, c'est mes chouchous, ça.
Alors vas-y, raconte-nous, c'est Home Cooking.
Home Cooking, qui reprend des titres connus mais revus à la sauce rhythm and blues, rockabilly. Donc là, on a une version de Tied in Love absolument géniale. Je ne peux pas m'en lasser. Et c'est des copains d'Orléans.
Alors voilà, super feeling avec eux. Vraiment un rapport, on a hâte de se rencontrer parce que à chaque fois qu'on se prend au téléphone et tout, par mail, c'est trop mignon. Merci.
Mais Norbert, le chanteur, c'est un super pote, quoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis il est beau sur scène, quoi. Il est magnifique, quoi. Bon, là, on ne voit pas encore, mais vous allez, les filles, attention, là. Ou les gars, d'ailleurs, ça dépend des goûts.
Tu sais, c'est super. Et pour nous, c'est le challenge par rapport à un musicaire, c'est qu'on est au sein d'une fête populaire existante, avec donc un public, on ne peut plus, comme on dit, intergénérationnel, avec des papis, des mamies, des mamans, des papas, des enfants. Et il faut qu'on fasse quelque chose qui plaise à tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut servir la soupe, je dis qu'il faut quand même faire des passerelles de goût, pour que les gens s'intéressent à un moment donné à ce qui se passe sur scène. Et je pense que ça va être topissime.
Exactement. Tout le monde va s'y retrouver, en fait, je pense, hein, autant dans le rythme rhythm and blues que dans les morceaux réinterprétés, qui sont des morceaux de variété, pour certains des années 80. Tiny Love, c'est... Je sais plus, c'est Cellphone, je crois. Je ne sais plus comment... Le nom du groupe.
Soft Cell,
voilà.
Tu étais déjà trop petit.
Mais moi, je t'appelle né, là. Mais j'étais le sang de ma mère à cette époque-là, moi.
En fait, ils le font comme l'original. C'est-à-dire l'original, qui était une reprise, Soft Cell, c'était une reprise d'un morceau de 1964.
De Rhythm and Blues, du coup. Ah là 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 là. Merci.
Chanté par Gloria Jones en 64.
Merci, monsieur Maître Weber.
Alors, ne vous inquiétez pas, de toute façon, monsieur Weber, il sera sur le Festivox. Monsieur Barda, il sera également, pour pouvoir nous raconter des petites choses au micro entre les groupes. Ça, j'y tiens beaucoup.
Voilà,
ça sera une petite spécificité.
Vous rencontrerez les Home Cooking, c'est vraiment, vraiment génial.
Et puis alors, tu nous montres Obscene, c'est ça? Voilà, Obscene, c'est le groupe qui a été choisi par le label Tramp. Ils sont pas là, les copains du label, mais en tout cas, je les remercie beaucoup. Je fais un gros bisou. Là aussi, gros feeling avec ces gars-là. Ils viennent d'Orléans aussi, hein, les
ouais.
Obscene. Et toi, tu les connais, Julien?
Je les connais dans le cadre professionnel, puisque j'ai travaillé un petit peu dans deux, trois endroits à Orléans. J'ai pu les connaître dans ce cadre-là. Et ils ont joué aussi à une fête de Chalette. Il y a un petit moment, ils ont été accueillis en résidence aussi par le hangar. Donc oui, je les connais. Et je sais pas quel âge ils ont aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient très jeunes, ils n'étaient même pas majeurs. C'est papa et maman qui les emmenaient.
En tout cas, quand j'ai demandé au label Tramp, ils ont dit tout de suite Obscene. Ces matinées de disco, ces matinées de pop.
Pop, disco, voilà. C'est dans l'air du temps, mais c'est bien fait. C'est très bien interprété, la chanteuse a une voix superbe. C'est plein d'avenir.
Elle est passée aussi à The Voice, je pense.
Ah oui.
Elle est passée à The Voice, nous dit Monsieur Weber. Et Pascal Weber, t'avais le disque de Obscene dans ta discothèque. Parce que c'est des gamins, mais ils nous ont fait. C'est un faux 33 tours quand même, les gamins. Mais bon, voilà, et il avait ça. Alors c'est dingue quand même, c'est dingue. Voilà, on va le mettre là, entre nous. Et puis, si on doit parler évidemment de Mille et Une Fêtes, j'ai envie, Mille et Une Fêtes, Eric Dems, de t'associer évidemment à notre copain Freddy Miller, un de Blue Steelers. C'est vraiment... Moi, ça fait longtemps, j'aime bien, tu sais, quand on fait venir des gens qu'on ne connaît pas sur scène pour les présenter à un public. Mais j'aime bien aussi que le public du Montargois ait conscience de tous les excellents musiciens qu'on a chez nous.
On est d'accord.
Voilà. C'est exactement le principe de Mille et Une Fêtes depuis 10 ans. Et donc, il y a Freddy Miller qui habite en plus pas loin de Château-Renard. Il a donc son groupe The Blue Steelers. Alors Freddy Miller, c'est le poids lourd du blues. Il se la pète à mort, mais il est super sympa. Il va venir avec toute sa troupe et tout, et ça va être super. Voilà, alors c'est énorme. Il peut chanter le botin, le mec, de toute façon. Ça donne toujours quelque chose. Alors là, c'est leur compo, hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment leur compo. Ils cartonnent partout en ce moment. Alors il est chaud, hein, il est chaud pour venir. Et puis c'est pareil, moi tu sais, j'adore la chanson française un petit peu à l'ancienne. Et je me souviens en 96 exactement, à un concert de Renaud, en première partie, il y a un monsieur qui s'appelle Sarclot, qui est venu.
D'accord.
Et Sarklo, c'est...
Rien à voir avec un ancien président.
Non, mais il a un petit peu joué là-dessus durant toute sa carrière. Ah, oui. Et puis, tout à fait par hasard, Joël me dit un jour, Joël Riflet, qui est le directeur du Vox, me dit, tiens, on a reçu ça, on a reçu une proposition, le mec, il s'appelle Sarklo, j'ai écouté le disque. Alors là, Madeleine de Proust, pour la vieille parisienne que je suis. Et on a dit oui à Sarklo. Ça sera en première partie, parce que c'est de la chanson qui s'écoute, on l'a dit déjà ensemble. C'est un petit peu dangereux. Il faut un peu préparer le public, il faut, faut préparer. Ils prennent vraiment un danger, les auteurs-compositeurs, un c'est petit vrai. Peu intimistes, quand ils viennent dans nos espèces de grosses machines. Je t'avouerai que la grosse machine de festival, tu t'en doutes, à la base, c'est pas vraiment mon truc. J'aime l'intimiste.
Bien sûr.
J'aime la rencontre intime. Alors, il a gagné aussi, alors il a gagné plein de trucs, prix Brassens, et aussi prix de la chanson d'humour. C'est un type qu'on a plein là, qu'on a plein la caboche, qu'on a plein le cœur, qu'on a plein les tripes. C'est un vrai chanteur militant, quoi. Voilà. Voilà. Il y a la bonne voix, il y a tout, et puis c'est pareil, il y a un super film entre autres avec son amoureuse que j'ai au téléphone souvent. Ils vont venir et je les trouve tellement, tellement bons. Je leur ai dit, j'ai trop envie de vous offrir ma maison pour que vous veniez, pour que vous découvriez aussi mon univers. Voilà, je crois que l'histoire du Festivox, c'est comme le Vox, c'est toujours soyons curieux des arts et des autres, et toujours des histoires de rencontres humaines.
Complètement.
Voilà. J'ai tout dit, t'as d'autres questions à me poser?
Non, mais je vais aller dans ton sens, puisque c'est vrai que ce Festivox, c'est vraiment le moment, le lieu de rencontre de tous les amis du secteur, en fait, des gens qu'on voit pas le reste de l'année, on les voit à la guinguette, et c'est toujours un plaisir, ce qui fait la magie de cet événement aussi, quoi.
Juste qu'il n'y a pas que de la musique.
Ah oui, et ben,
il y a un peu de cinéma aussi
là.
Quand même, non?
Alors, on va essayer de faire de la projection, ça c'est toujours compliqué au niveau de l'équipe, on est englué de cinéma pendant toute l'année, et puis là, je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à projeter de l'image quand on est au Festivox. Alors, il va falloir travailler ça. Il y a aussi un spectacle, on va déambuler sur l'île grâce à la compagnie Grande qui va faire revenir les grands masques qui sont venus au mois de septembre dans Château Renard.
D'accord.
Alors là, ça risque d'être très onirique et très beau avec ces gros animaux géants un petit peu anthropomorphes.
On montrera le
tu sujet. Tu montreras le sujet. On a un vieux sujet qui traîne. On enlèvera la poussière et tu montreras le sujet. Et puis, il va y avoir aussi du spectacle pour enfants. Entre autres, la Tuk Tuk Compagnie. Je vous adore, la Tuk Tuk Compagnie. C'est un peu mon ADN. C'est ma famille. Vous allez venir avec la Princesse aux petits pois. Ça va être très bien. Et puis, une autre compagnie qui s'appelle La Gargouille. Ces deux compagnies, c'est le 89. C'est la Puisée. C'est un lieu où tu peux puiser, justement, plein de choses. Et La Gargouille, ils vont nous faire... une heure d'histoire de France complètement délirante. C'est du café-théâtre, nouvelle façon de voir les choses, c'est super. Voilà, et puis il y a du jeu pour les enfants, enfin voilà, on essaie de faire une kermesse intelligente et nouvelle. Et il y a à manger et à boire. Il paraîtrait même qu'il va y avoir les galettes bretonnes de Monsieur Weber.
Il s'est entraîné, hein. J'ai vu, il a un bidic de compète là.
C'est ça. Et ben voilà.
Bon ben voilà, ben écoute, merci Sandrine d'avoir participé à cette émission.
Merci de m'avoir accueilli.
Mais il n'y a pas de quoi. Et puis voilà, on vous dit à bientôt en compagnie de Sandrine et Pascal. Et allez tous à la guinguette le week-end de la Pentecôte, donc on n'a pas donné la date.
C'est 4 et 5 juin.
4 et 5 juin.
Et tu m'as dit que tu ferais le bonimenteur.
Je vais essayer, il faut que je m'entraîne un petit peu. Hein. On va voir. Je ne peux pas refuser ça.
Shadows, moving faces, I C2L Radio.
Tout à l'heure, Sandrine Manteau nous a donc présenté le programme du 25e Festivox qui aura lieu le week-end prochain à Châteaurenard, les 3, 4 et 5 juin. Et parmi les spectacles proposés, souvenez-vous, il y a ces masques que les Castelrenardais ont déjà pu apercevoir à la fin de l'été dernier dans les vitrines de Châteaurenard. Nous avions interviewé la troupe à l'époque, à cette occasion, juste après la représentation, souvenez-vous.
Alors, qu'est-ce que vous venez de voir ? Vous venez de voir le premier projet du collectif qui s'appelle donc Masque, spectacle sans vis-à-vis. À l'origine de Masque, il y a moi-même et ma comparse fidèle, juste ici, Mathilde Omarle. On était deux amies, toutes les deux dans le spectacle vivant, et on s'ennuyait beaucoup pendant le confinement et on était très déprimées et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un spectacle sur ce confinement et sur ce que c'était que l'espace-temps que ce confinement a créé, ce qui nous a permis de redonner davantage d'importance à l'intimité et aux petits gestes du quotidien. Et le fait que faire son lit devenait un événement, faire sa vaisselle devenait un événement. Enfin, on a voulu créer un spectacle à partir de ça. Sur cette bulle de solitude où on se recrée soi-même son petit espace chorégraphique, chaque jour répété et pourtant chaque jour différent. En parallèle de ça, il y avait Châteaurenard, qu'on aimait beaucoup et qu'on avait d'investir, dans lequel on avait envie de redonner de la vie. Et c'est pour ça qu'on a imaginé investir les vitrines afin de pouvoir créer un spectacle parfaitement sain en période de, dans ce contexte sanitaire compliqué. On a réuni tous les copains les plus proches, les copains, les copines, certains qui, et certaines qui ne connaissaient pas du tout Châteaurenard encore, qu'on connaissait pas très bien non plus pour certains. Et on leur a dit, mais venez, on monte quelque chose ensemble. Et tout le monde a été très partant. Et c'est là que s'est lancée une vraie dynamique de groupe où chacun est arrivé avec ses propres qualités, son propre potentiel de travail, ses propres connaissances, que ce soit en vidéo, que ce soit en construction, que ce soit en costume, en photo. Et c'est dans cette grande marmite qu'on a créé tout ce spectacle. Tous les masques ont été créés par l'équipe. C'est ce qui a d'ailleurs été créé en premier, en parallèle des premières idées de mise en scène. Qui ensuite se sont construits session par session avec l'acteur ou l'actrice concernée. Ça s'est fait essentiellement avec l'acteur ou l'actrice concernée et Mathilde et moi-même, où on a eu une vraie recherche de plateau, en fait, c'est-à-dire où on a essayé autour de ce masque et commencé à ébaucher des esquisses de gestes, de situations, voir ce qui fonctionnait, voir ce que le personnage nous racontait aussi pour pouvoir déceler sa personnalité et ce qu'on avait envie d'en faire. Parce que donc, c'est un spectacle poétique qui nous parle d'intimité, comme je le disais, mais aussi un petit peu, quelque part, de solitude et d'ennui comment se sentir chez soi dans cet environnement qui, parfois, nous semble presque... nous semble presque pas horrifique, mais hostile, merci. Nous semble presque hostile. Il y a aussi une chorégraphie à travers la ville. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti de ces espaces? Et c'est aussi le vivre ensemble, se retrouver, cette joie de se retrouver tous ensemble pour faire la fête et pour redécouvrir cet espace extérieur auquel on n'était plus habitué. C'est vrai que Châteaurenard a été notre terrain d'expérimentation et notre terrain de jeu. On a été très bien accueillis et on nous a vraiment laissé champ libre.
Et bonjour. Alors moi, j'interprétais le hérisson, voilà, qui fête son anniversaire seul.
Qui soufflait sur sa bougie.
Et cette histoire est biographique parce que je fais parmi celles qui ont vraiment fêté leur anniversaire pendant le confinement.
D'accord, toute seule.
Toute seule. Et je me suis offert le luxe d'un énorme gâteau.
D'accord.
Que j'ai mangé entièrement seule. Et j'ai dansé seule. Et voilà, ça m'a fait plaisir ce soir de jouer.
C'était du vécu. Quoi.
Et c'était du vécu.
Alors moi, c'est Léon et j'étais le lapin. Je suis le lapin dans le spectacle, ce maître du temps un peu qui voyage avec le renard dans la ville et qui essaye de guider les spectateurs à travers les différentes vitrines, puis qui réunit un peu cette joyeuse troupe pour aller faire la fête.
Moi, du coup, j'étais le chat. Pourquoi ? Bonne question. Je pense essentiellement parce qu'il était admis qu'on allait pouvoir me faire à peu près faire à peu près n'importe quoi et que j'allais endurer. Et voilà, c'était très bien.
Alors moi, je suis Éloi. Je faisais le poisson qui tentait de regarder la télé tranquillement et à qui il arrive énormément de problèmes avec cette télé.
Je suis Jean-Baptiste et je suis également le renard. Donc, qui vient mettre fin avec le lapin, Léon, à cette période d'isolement. Le fameux renard de Château Renard. Voilà. Le fameux renard qui incarne peut-être le plaisir aux retrouvailles de toute cette jolie ville.
Masques qui avaient envahi Château Renard à la fin de l'été dernier sont donc de retour le week-end prochain à l'occasion du 25e Festivox, avec tout d'abord des ateliers de création de masques le samedi 4 juin à partir de 14h et puis deux représentations du spectacle déambulatoire à 16h et 18h. Voilà, nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, je vous rappelle que le festival des planches fêlées se déroule au théâtre de l'Escabeau à Briard. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir l'interview que nous avions réalisée en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, Sandrine Manteau, Patrice Avzar, Anita JB. C'était Pascal Weber au micro et à la réale. Rendez-vous samedi à 10h sur C2L pour un nouveau numéro. D'ici là, bonnes semaines à toutes et à tous.
C2L Radio.
C2L. Crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping and sliding is magic. And your sweet desire, you took me. It's a given thing. What a terrible thing to lose. Making believe this is what you conceived from your worst day. It's a living
it's a given thing. What a terrible thing to lose. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a terrible thing to lose. What a terrible thing to lose.